ça vous plaît pas, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Donc on est le groupe Eiffage, un des reconnus pour la construction, mais on fait aussi de l'immobilier. Donc je suis le directeur de la structure immobilière sur la région Atlantique, je m'appelle Hervé Lapastour. Je suis accompagné de Maya Turc, architecte, qui nous accompagne justement dans cet atelier Phosphore. Donc Phosphore, c'est, de ce que j'en comprends, c'est un atelier de travail porté par le groupe Eiffage, donc la holding. Donc dans le groupe Eiffage, il y a plusieurs métiers, la construction, le bâtiment, l'immobilier, mais aussi les gens du génie civil, les gens des routes et de la construction métallique. Donc on a essayé de mettre en réflexion toutes nos compétences pour amener des idées et participer nous aussi à comment qualifier la ville de demain, les usages et l'espace public, puis c'est le thème d'Agora. Donc Maya Turc, donc, qui est architecte et qui nous accompagne dans ce projet-là. Et je suis accompagné également de Céline Rouillès, qui est responsable de développement sur la région Atlantique. Voilà, je vais leur passer la parole, puis n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci.
Bonjour à tous. Je vous remercie d'abord d'être là, puisque le thème, effectivement, n'est pas aisé. Phosphorer sur la ville de demain, on peut imaginer assez facilement qu'on va partir dans quelque chose d'un peu fumeux, qu'on va faire un petit peu de mal aux mouches, comme le disait le président Chirac. C'est quelque chose de tout à fait assumé, puisque vraiment, d'une part, on est dans l'agora, donc un endroit, une parenthèse de liberté créatrice, quand même, sur la ville et sur l'aménagement urbain. Et puis, parce que cette idée de créer une parenthèse de liberté créatrice est celle qui est reprise même par notre dirigeant, Pierre Berger, pour qualifier Phosphore. Phosphore, c'est effectivement un outil de réflexion sur le développement durable et sur la ville de demain que nous avons inventé en 2007. Donc, aujourd'hui, dans l'Agora, le thème, c'est quand même l'espace public et ses limites. Donc, on va essayer de se limiter justement à l'espace public dans la présentation de Phosphore que l'on va vous faire. Parce que Phosphore, c'est quand même un projet qui est, comme l'a dit Hervé Lapastour, nécessité la mise en synergie des différentes compétences du groupe. C'est un projet qui est né en 2007 de deux réalités, de deux impératifs qui ont conduit à une prise de conscience par nos dirigeants, qui étaient le réchauffement climatique et la nécessité vraiment d'agir dans un souci de sobriété énergétique et d'efficience dans la gestion de nos espaces. Et puis, cette idée aussi pour toute entreprise telle que nous la sommes, en plus une entreprise pluridisciplinaire et un peu acteur ensemblier de la ville, cette nécessité que nous avions de prendre rigoureusement le virage du développement durable et de concevoir des modèles, des schémas durables dans notre politique de recherche et développement durable. Donc, cette nécessité était née aussi au sein des collectivités de nos donneurs d'ordre, puisqu'on constatait une montée en puissance de la demande d'écoquartiers dans le cadre de nos consultations. Et puis, on a été confrontés aussi au développement des délégations de services publics, que sont les concessions, les partenariats publics-privés, qui faisaient de nous non plus des simples locataires d'ouvrages, mais des acteurs intégrés dès l'origine dans la conception des projets d'aménagement urbain. Et à cette occasion-là, notamment concernant des ouvrages linéaires, des infrastructures, on a été confrontés de manière assez violente pour nous à des problématiques justement environnementales, avec le contexte aussi politique du Grenelle de l'environnement, qui était très prégnant en 2007. Et donc, on a vraiment perçu en fait la nécessité de réfléchir et de se créer un outil pour penser durable et produire durable, notamment sur la ville de demain. Donc, Phosphore, c'est ce fameux laboratoire interne de recherche en développement urbain durable. C'est donc l'idée d'une réflexion systémique qui peut s'appliquer à l'échelle d'un quartier, d'une ville. C'est donc un exercice totalement prospectif, donc pour le coup un peu fumeux, avec parfois des solutions innovantes et ambitieuses, mais qui s'exonèrent des contraintes juridiques, techniques actuelles. Et l'idée de Phosphore, c'était de proposer des scénarios, des solutions en rupture, et surtout d'avoir des terrains de jeu pour le faire. Donc la méthode a consisté d'abord à réunir un échantillon représentatif des différents métiers du groupe, comme vous le citez Hervé Lapastour, hein, des ingénieurs, des travaux publics, du bâtiment, de les mettre ensemble. Et bien évidemment, comme on a, je ne crois pas être trop irrévérencieuse envers mon employeur, on a quand même un ADN de bétonneux, il fallait aussi s'adjoindre les compétences de personnes externes au groupe, des sociologues, climatologues, et bien sûr des architectes urbanistes, dont fait partie Maya Thur pour l'agence Pierre Gauthier. Donc cette volonté d'analyser de manière systémique les besoins et les solutions en matière de développement durable pour la ville de demain, nous l'avons condensée dans un outil, un référentiel haute qualité de vie que je vais vous présenter, que nous avons déposé en 2009 à l'INPI et qui est donc une méthode d'évaluation de nos projets pour tendre vers un maximum de durabilité lorsqu'on parle de la ville de demain. Ça nous a conduit à proposer des innovations, qu'elles soient organisationnelles ou techniques, qui sont donc parfois audacieuses et en rupture. On a pu concrétiser ces innovations. Aujourd'hui, on commence à les concrétiser sur des terrains de jeu réels, que sont par exemple l'aménagement de quartiers à Marseille, un îlot à l'art, sur lequel on a vraiment eu une démarche phosphore, mais aussi une méthode qui aujourd'hui va s'exporter, puisque l'État français nous a consultés, on a monté un groupement avec GDF, Suez et EGIS pour créer un simulateur de ville durable à destination de l'État français, mais pour la ville d'Astana, qui est la capitale du Kazakhstan, dont la population a plus que doublé en 15 ans, qui est passée de un peu plus de 300 000 habitants en 2000 à aujourd'hui 850 000 habitants, donc qui se pose des questions de développement durable, qui a sollicité l'État français. L'État français a souhaité exporter le savoir-faire, et donc on a eu la chance d'être mandataire de ce groupement pour concevoir ce simulateur de ville durable à destination d'Astana. Donc il est aujourd'hui en réflexion, il est en production. C'est pour ça d'ailleurs que M. Pierre Gauthier n'a pas pu être là ce jour, parce qu'ils sont au Kazakhstan. Donc on ne va pas vous parler particulièrement de ce simulateur. Par contre, on va vous exposer en fait notre méthode phosphore. Donc le référentiel HQV, haute qualité de vie, que nous avons créé et déposé en 2009, c'est un outil pour, de manière systémique, réfléchir et concevoir durable, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc cet outil repose d'abord sur une grille de lecture pour tous nos projets. C'est 5 principes que nous avons définis parce que il nous semble qu'ils sont vertueux. Et donc notre objectif c'est de tendre au maximum dans nos projets vers ces 5 principes. Alors ces 5 principes, quels sont-ils ? Il y a le respect du génie du territoire, hein, donc c'est bien la prise en compte des spécificités physiques et naturelles du lieu. Donc bien évidemment l'espace public dont il est question aujourd'hui est une donnée entrante essentielle dans notre réflexion. La gestion raisonnée des flux et des mobilités, l'intensification et l'évolutivité des usages. Donc là, l'idée, ça a été décrit aussi dans la conférence précédente, c'est effectivement d'avoir des bâtiments, des espaces qui soient modulaires pour pouvoir supporter plusieurs usages et évoluer en fait avec les besoins. Bien évidemment, aucune démarche n'a de sens si elle ne concourt pas à la santé et le bien-être des habitants du quartier qui l'occupe, avec un souci aussi de cohésion sociale. Et effectivement, tous les objets, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment ou d'un quartier, que l'on va produire, doivent à la fois être équipés pour prévenir les risques, même technologiques ou climatiques, et résilients en cas de survenue de ces risques. Donc ça, ce sont les 5 critères vertueux, on va dire, vers lesquels nous cherchons à tendre systématiquement dans notre réflexion. Ces 5 critères, nous les mettons en perspective pour chaque opération, que ce soit à l'échelle du bâtiment, du quartier, de la ville ou de la communauté urbaine, comme c'est le cas actuellement avec une réflexion sur Strasbourg. Ces 5 critères, nous allons les mettre en perspective avec des champs d'analyse systématiquement, que sont donc l'environnement physique et naturel, le développement humain, les ressources et matières, l'eau, l'énergie, l'économie. Alors c'est vrai que l'eau et l'énergie, ça aurait pu être dans les ressources et matières, mais c'était tellement important en soi que ça nécessitait une analyse distincte. Donc ça, c'est les échelles dont je vous parlais précédemment. Et donc l'idée pour chacun de ces principes et chacun de ces champs d'analyse, c'est de croiser effectivement les principes et les champs d'analyse pour dégager des orientations de développement durable pour le projet. Par exemple, au niveau des principes HQVI et du champ d'analyse de l'énergie, on se dit que pour être performant sur un projet en respectant le génie du territoire, on va veiller, par exemple, à utiliser les potentialités du territoire existant en énergie renouvelable pour avoir le moins possible recours aux énergies fossiles. Ça se décline sur tous les principes. Je ne vais peut-être pas insister sur ces principes parce que c'est vrai que c'est un peu ardu comme démarche. Simplement, ces orientations de développement durable que nous aurons dégagées vont nous conduire du coup à élaborer des solutions dont on va ensuite mesurer par retour leur durabilité, leur niveau de performance en matière haute qualité de vie, à nouveau sur les différents principes, en vérifiant que ces solutions respectent les différents principes ou en respectent le maximum possible. Ça nous permet du coup, après la grille de lecture et d'analyse, d'avoir un outil de mesure en fait de nos solutions et de nos projets, un outil de mesure de la performance en termes de haute qualité de vie. Et donc, par exemple, ça va nous conduire à pouvoir élaborer ce type de schéma en toile d'araignée qui, en fait, définit le profil haute qualité de vie en nous montrant au centre de cette toile d'araignée se trouve plutôt ce qui est la sphère réglementaire. Par exemple, en matière de performance énergétique, si je construis un immeuble de logement aujourd'hui, je vais devoir de toute façon respecter la norme RT 2012. Donc, si je ne fais que respecter cette norme, ben, je vais me situer vraiment au centre de ce schéma. Si je propose des solutions plus innovantes qui vont dans le sens des respects de nos principes vertueux, eh bien, je vais pouvoir m'étaler, et plus je m'étale, plus je suis performante. Donc ça, c'est juste la matérialisation de notre système. Alors, cette partie-là, donc, c'est l'outil de réflexion systématique. C'est effectivement la partie un peu ardue. Et je vais quand même là, maintenant laisser la parole à Maya, qui va du coup vous présenter des solutions innovantes, justement, ou parfois moins, parce qu'on a démarré en 2007 la réflexion. Et il est vrai qu'aujourd'hui, et on vient d'en entendre dans les débats, il y a des solutions, par exemple, de jardins partagés qui sont reprises et qui sont de toute façon diffusées largement auprès des opérateurs et des concepteurs de la ville. Donc Maya va nous présenter les solutions en lien avec l'espace public auquel a débouché Phosphore. Merci de votre attention.
Bonjour, effectivement. Maya Thur, j'ai travaillé du coup juste pour rappeler un petit peu. J'ai travaillé sur le projet tant qu'architecte urbaniste de 2009 jusqu'à 2013. Du coup, ça fait vraiment une période très, très importante. Et effectivement, il y a eu des évolutions très importantes lors de tout ce temps-là. Et effectivement, quand on parle de projet Phosphore, il est très important de connaître cette grille d'évaluation. Mais après, il ne reste qu'à faire. Ça veut dire que ce n'est pas juste une réflexion qui reste théorique, mais après c'est vraiment de tester sur des territoires différents que comment on peut mettre vraiment en place et à quel point c'est pertinent. Qu'au début on parle d'une rupture certes avec le contexte d'aujourd'hui, mais est-ce qu'on arrive vraiment à trouver quelque chose qui soit différent, qui soit au-delà des solutions qu'on propose aujourd'hui? Alors, pour comprendre aussi la démarche, il faut savoir qu'il y a une méthode qui est très importante au sein de laboratoire, c'est de travailler pas par projet, mais par thématique. Du coup, il y a des ateliers et chaque atelier traite un thématique particulière. Bien sûr, il y a l'atelier de HQVI qui traite toutes les questions de développement, cette crise de HQVI, mais par la suite, bien sûr, il y a aussi l'atelier énergie-architecture qui s'occupe de toutes les questions liées à l'énergie. Après, il y a l'atelier écomobilité, les écosystèmes urbains, économie circulaire. Et par exemple, lors du dernier Phosphore, nous avons ajouté aussi un atelier qui s'appelle Phosphore industriel, avec souci de l'intégrer industrie dans la ville. C'est justement un procédé en soi qui est évolutif et qui intègre au fur et à mesure des nouveaux sujets qui arrivent. Ah oui, et comment je passe ? Oui. Alors, je reviens juste un instant. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile de parler séparément des espaces publics dans le cadre de projet Phosphore. Car Phosphore, en soi, c'est une approche systémique et la porte d'entrée, c'est plutôt par thème, et ces thèmes sont bien plus larges. Du coup, je propose plutôt, pour être cohérent dans la démarche, de commencer par les réflexions qui ont été menées au sein de l'atelier Écomobilité. Et ces réflexions-là sont très étroitement liées aux espaces publics, en fait. Et en fait, tout l'avantage de Phosphore, c'est aussi d'aller au commencement, quelque part, et de remettre en question la ville d'aujourd'hui. En toute innocence, en se demandant qu'est-ce qu'on cherche si on n'a pas de contraintes. Et un des éléments qui était très important, c'était l'échelle humaine. Comment retrouver l'échelle humaine dans les quartiers qui sont conçus pour les voitures, par exemple. Comment retrouver cette autre dimension. Et du coup, nous avons regardé un peu les différents types de maillage qui existent aujourd'hui. D'une part, les maillages de transport en commun, mais d'autre part aussi en confrontant ces maillages existants avec cette échelle humaine des traversées faites par les piétons, le temps que ça prend et tout l'espace qui existe pour le faire. Et ça nous a amené en fait à réfléchir qu'il y a quelque chose qui est sorti qui est à l'ordre d'organisation de quartier avec des distances de 600 mètres. C'est des unités qui devraient contenir un certain nombre des programmes pour être autosuffisants quelque part et aussi d'avoir certains types de centralité. Et quand on passe après, c'était l'idée aussi comment relier ces centralités-là. Est-ce que c'est le système d'aujourd'hui, cela veut dire que le système hier existant, qu'on devrait réutiliser, ou est-ce qu'on peut proposer ou imaginer d'autres types de liaisons? Et c'est là où on commence d'être vraiment en rupture quelque part avec ce qu'on réfléchit aujourd'hui. Que c'était le concept tracé interquartier, et l'idée c'était que ce tracé interquartier traverse les quartiers autrement. Cela veut dire qu'ils proposent de traverser pour justement les piétons, soit aussi les transports en commun vert, pour traverser en essayant de récupérer les cœurs des îlots, etc., etc. Et on avait regardé cette question au début à Marseille, et j'avoue qu'au début, nous avons pensé que c'est un exercice quasiment impossible, mais en réalité, il y a des terrains, il y a des parcelles à trouver et c'était une façon de restructurer la ville. Bien sûr, nous n'avons pas pris en compte toutes les contraintes de propriété, etc. Mais c'était aussi une idée développée que vers où on devrait aller si on pouvait. Que c'est vraiment pour présenter cette liberté de réflexion. Et après, par exemple, c'était les premières réflexions ici, toujours, il faut proposer aussi la formalisation de ce tracé interquartier. Au début, ça a pris des formes plus conventionnelles. Par la suite, on est allé vers, surtout à cause du transport en commun que nous avons imaginé plus tôt, tiré par le câble au niveau du sol. Par la suite, nous avons changé de concept et on a évolué sur le sujet. Mais j'aimerais bien, juste pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça se passe, en fait, de montrer un film qui a été fait par l'atelier Écomobilité et qui reprend justement un certain nombre de concepts qui étaient développés récemment au sein de cet atelier.
À la périphérie de l'agglomération grenobloise est aujourd'hui un constat unanime. Cette situation s'explique par la configuration particulière du territoire en Y qui canalise sur trois axes le trafic entrant. En 2030, elle est devenue un atout. Les hubs multimodaux, positionnés sur chaque branche, constituent les portes d'accès régulant flux de personnes et de marchandises. les autoroutes urbaines n'en restent pas moins des points noirs de circulation. Phosphore propose de déconnecter les flux de transit en leur affectant une voie tangentielle dédiée, ce qui permet de requalifier les autres voies en boulevards urbains pacifiés. Aux entrées de ville, les hubs arrêtent les véhicules polluants à destination du centre. Ils dispersent les flux en les reportant vers des modes de transport propres, TER, tramway, transport urbain par câble, véhicules électriques en autopartage ou vélo. Les mobilités douces bénéficient d'itinéraires paysagers spécifiquement aménagés. Totalement décarbonée, la desserte du territoire par les réseaux de transport urbain est intensifiée grâce à une logistique du dernier kilomètre qui se déroule de nuit. À l'échelle de l'agglomération, Phosphore propose une gestion centralisée des déplacements. Celles-ci permettent aux usagers de personnaliser leur parcours tout en adaptant en temps réel l'offre de transport propre à la demande globale. Elles permettent aussi l'émergence d'une nouvelle forme de mobilité solidaire où les solutions en partage subviennent aux besoins de chacun. Le modulaire, un moyen de transport innovant issu de la technique du transport par câble, a été imaginé en parfaite compatibilité avec les lignes de tramway et de bus existantes. Il permet de réduire significativement le temps perdu lors des correspondances et d'irriguer des quartiers aujourd'hui peu desservis. Il laisse le champ libre au réseau végétalisé d'itinéraires piétons et cyclistes. Cet éventail de mobilité décarbonée assure un maillage fin au profit de l'ensemble de l'agglomération.
Du coup, on voit, c'était aussi pour révéler un petit peu l'évolution qui était faite au sein de l'atelier, qu'on a commencé vraiment avec des réflexions de départ et on est arrivé aux concepts qui sont vraiment dans un contexte frais avec aussi des technologies d'aujourd'hui. On a collaboré par exemple avec Poma pour mettre en place vraiment techniquement les transports urbains par câble. Et du coup, il y a vraiment, d'une part, il faut savoir que ça reste prospectif. Mais d'autre part, on a toujours derrière ce contrôle technique avec les possibilités et les innovations d'aujourd'hui qui existent. Que c'est un discours un peu... Et maintenant, j'aimerais bien en fait présenter, juste comme le sujet, c'est quand même les espaces publics, quelques concepts d'espaces publics qui ont été développés au sein des différents ateliers, ici, d'atelier d'écomobilité. Le premier concept, c'est la rue nue, que... On a commencé, en fait, c'était une réflexion sur les espaces existants et comment les rendre, les espaces publics existants, comment les rendre les plus flexibles, les plus multifonctionnels, comme on en parle beaucoup, mais comment faire si on avait un petit peu moins de contraintes qu'on a aujourd'hui qu'en imaginant vraiment la ville de demain. Et du coup, l'idée, c'était que comment dégager cet espace pour que ça devienne flexible. Et l'idée, c'était justement d'enlever la signalétique. Et si on enlève la signalétique, de l'envisager au niveau de sol. L'idée est très simple, mais du coup, ça reste quand même quelque chose qui est libre quelque part, mais figé dans ses fonctions ou dans sa façon de fonctionner. Étape suivante, c'est imaginer cette signalétique qui soit flexible. Cela veut dire qu'on puisse le reconfigurer très, très simplement. Ainsi, nous avons cherché des solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire techniquement? Et on a trouvé en fait l'intégration des lucioles dans l'arrobé. Cela veut dire des petits luminaires qui sont visibles aussi à jour et qu'on peut intégrer directement dans le sol de l'espace public. Cela veut dire qu'avec ces lucioles, on arrive du coup à reconfigurer les espaces. C'est vrai que ce type de concept, c'est plus approprié pour les espaces denses où on a vraiment besoin de cette multifonctionnalité. On a besoin de retrouver sur même espace, par exemple, des espaces publics qui, des fois, sont réservés pour les voitures, des fois, sont réservés pour les piétons, etc.
Sur Bordeaux, par exemple, nous avons proposé, dans le cadre d'un concours de la SPL, l'îlot Cité des métiers à Pessac, à côté de Cap Métier, on a proposé effectivement d'utiliser le luciole sur des places de stationnement dont on sait qu'elles ne vont pas être en permanence utilisées et avec la possibilité de transformer ces places de stationnement en terrain de jeu, par exemple.
D'accord. Et ici, il y a quelques... illustration des espaces différents, comment les espaces ne doivent pas être forcément au sein des contextes urbains extrêmement denses que nous avons pensé au début, que c'est, ça peut être aussi par la suite pour réserver des espaces pour les transports de marchandises, le passage de transports en commun, etc. Et après, je propose du coup, pour mieux comprendre le concept, de regarder un petit film, c'est tout court, sur le sujet. Bon, c'est pas grave, du coup, je continue. Bon, pour l'instant, un petit incident technique. Du coup, c'est plutôt on continue sur, peut-être sur le concept. Mais l'idée, après, que c'était un film qui a montré justement comment, ça, comment les configurations du sol peuvent évoluer. Que c'est pas si compliqué que ça qu'on pense. Et ça, par exemple, on a travaillé beaucoup sur la notion de pollution lumineuse. Ça marche ? Non, bon, je pense que c'est pas très grave. Non, comme c'est pas sur l'écran, du coup, c'est pas grave. Et la question s'est posée aussi au niveau de maillage, que quel est le maillage qu'il faut envisager pour garantir cette flexibilité d'espace. Et nous avons travaillé sur ces questions techniques, et c'est vrai que c'est pas si simple que ça, mais en réalité, quand on prédéfinit les configurations possibles, c'est pas si laborieux que ça non plus. Que ça permet vraiment d'avoir des espaces publics qui ont un caractère complètement différent et qui devraient être pratiqués aussi d'une manière différente. Et ça ouvre des potentiels qu'on n'a pas imaginés au début. Que par la suite, en parlant des différents concepts, hop. Par contre, du coup, bon, je passe. Que c'est... Hop. La concept dont nous avons voulu parler aussi par la suite, c'était... Du coup, j'ai pas de visuel ici, mais...
Au cœur de la ville durable,
ah, d'accord. C'est le film sur la rue du coup. Désolée pour
le... En adaptant le concept de l'espace partagé et apaisé, Shared Space, déjà expérimenté en Europe à travers le principe de la rue nue. L'innovation proposée par Eiffage est d'intégrer à l'espace public de la rue un développement intéressant du procédé modulaire et lumineux Luciole, développé par les branches Forclum et Travaux publics du groupe, et dont les LED...
Ouais. Bon, je profite peut-être de l'occasion quand même pour continuer la présentation tout simplement. Et l'autre innovation qui a été proposée pour créer des nouvelles espaces publics, c'était le principe de l'Urban Bridge. Comme Eiffage possède en fait une procédé qui est breveté des franchissements en forme de ponts métalliques qu'on peut installer en 48 heures. Aujourd'hui, c'est des innovations qui, ou des solutions qui sont utilisées plutôt dans les pays en guerre, etc., où il faut établir des connexions très très rapidement. Mais l'idée, c'était justement de ne pas réserver cette solution seulement pour ces situations-là, mais de l'amener dans la ville. Et de trouver justement la possibilité de démultiplier les différents franchissements. Et de trouver, comme c'est quelque chose qu'on peut monter en 48 heures, et c'est démontable. La seule contrainte, c'est qu'il faut prévoir des fondations au départ, mais par la suite, c'est vraiment quelque chose qui, et en plus, en termes de coût, ça reste très, très raisonnable. Et du coup, c'était l'idée que comment démultiplier justement toutes les... Ici, on voit une visuelle là-dessus. D'une part, c'était bien sûr après pour donner un peu de qualité formelle à cet espace public, mais à la base, c'est vraiment une innovation technique qui permet, avec le coût raisonnable, justement, de créer des connexions et des espaces publics au sein des espaces urbains denses aujourd'hui. Par la suite, il y a aussi le concept de transport urbain par câble. Que ça, c'était quelque chose que sur quoi nous avons beaucoup travaillé. Et je pense que peut-être l'Agora n'est pas l'occasion de parler de tous ces aspects, qu'il y a beaucoup d'avantages pour cette solution, par exemple en termes de consommation d'énergie, puis en termes de coût par rapport au tramway, par exemple, étant donné que ça permet de transporter le même flux de personnes. Mais j'aimerais bien ici parler juste l'avantage principal pour les espaces publics, c'est la non-consommation de sol. Cela veut dire qu'on a un transport commun qui est intégré dans le contexte urbain sans avoir cette contrainte de trouver le foncier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la réglementation, le survol des parcelles privées reste une question qui est délicate et qui n'est pas tout à fait acceptée. Mais dans l'avenir, en principe, c'est des réglementations qui vont évoluer. Du coup, cette idée qu'on peut libérer le sol et imaginer d'autres choses, ça propose vraiment, ça invite à voir des solutions un peu différentes. Ça permet aussi d'augmenter l'espace public. Et nous avons imaginé, par exemple, après, les visuels, c'est différent, mais ça, dans le contexte de Grenoble, par exemple, d'imaginer du coup des espaces verts avec les circulations pour les piétons, etc., etc. Mais avant tout, ce qui est important de retenir, ou pour les espaces publics, ce qui était important, c'était justement que cette augmentation de surface, des espaces publics qu'on peut avoir en intégrant cette monde de transport. Après, bien sûr, il y a aussi d'autres valeurs qui peuvent être portées par ce type de transport en commun. Par exemple aussi, ça travaille sur l'imaginaire de cartographie de la ville, de chaque habitant, d'une manière différente. Comme on a des parcours et des visibilités de la ville qu'on n'a pas autrement. Cela veut dire qu'on survole et on constitue une imaginaire autre de la ville aussi. Qu'il y a des aspects qui sont importants. Après, sur la construction durable, en fait, que jusqu'à maintenant, j'ai parlé, en revenant au départ, de la formalisation de ces liens, que c'était comment on fait ces liens. Mais maintenant, ces liens s'étaient créés pour relier des centralités. Et les centralités, ici, on voit le premier schéma qu'on avait fait pour Marseille, justement le tracé interquartier qui relie des centralités, des halles universelles pour nous. Et puis, ces centralités ne sont pas tous de même importance. Nous avons aussi hiérarchisé ces centralités. Et il y a hub en échelle de l'agglomération et il y a des halles universelles en échelle des communes. Et ici, par la suite, du coup, comment nous avons traité cette question d'espace public au sein de à l'intérieur de ces centralités. Au début, nous avons commencé de penser à l'espace à l'intérieur, comment qualifier cet espace qui est à l'intérieur et qui est resté un peu comme un espace des gares, quand même. Mais par la suite, nous avons évolué aussi. Et à Strasbourg, nous avons commencé de réfléchir davantage aux liens. Au lien avec le quartier avoisinant et aussi quel type d'espace d'extérieur je peux générer par ce type d'équipement. Après, peut-être comme le temps passe, je ne vais pas détailler le contenu de ces espaces, mais l'idée c'était vraiment de regarder ce lien au local car il fallait travailler dans les échelles différentes. Après, des exemples. Ici, par exemple, Hub à Grenoble, que nous avons imaginé, c'est peut-être pas compréhensible tout de suite comme il s'agit d'un équipement qui est extrêmement grand et paysager, mais nous avons évolué encore en termes d'imagination d'espace public, que nous l'avons imaginé plutôt par strates, vu la configuration de l'espace, que c'était des espaces verts piétons au niveau des toitures, puis au milieu, nous avons eu un espace pour les piétons. Et au niveau inférieur, c'était pour la voiture. Et important, c'était de trouver comment tous ces espaces communiquaient. Que ici, on voit au niveau du sol, justement, cet espace de covoiturage, d'arrivée des voitures. Par la suite, cet espace piéton avec le passage de tramway. Et ici, sur l'image, on ne voit pas très bien. Mais après, il y avait tout cet espace vert sur les toits. Après, juste pour parler très rapidement sur les halles universelles qui sont des centralités plutôt à l'échelle locale. Et ici, c'était de nouveau cette question que comment on travaille le lien entre cette halle universelle et le contexte. Est-ce qu'on peut faire des espaces participatifs? Comment faire que cette centralité commence à fonctionner tant que centralité? Est-ce que c'est une question de programmation? Est-ce que c'est une question de formalisation de bâti? Que on a explorer différentes pistes possibles. Et ici, c'était aussi que d'habitude, ces halles universelles se retrouvaient au milieu des quartiers. On les a rendus accessibles avec le tracé interquartier. Il y a eu aussi des configurations où il fallait les implanter au milieu d'écrans ronds-points, ou pas ronds-points, plutôt des intersections vières. Pardon, c'est là-bas. Et ici, nous avons allé vers les solutions, justement, que comment relier quand même par les espaces piétons ces halles universelles avec le contexte, en regardant justement les solutions possibles par exemple, des socles pour les bâtiments en rénovation, pour relier directement en passant par cet espace vierge. Et une question qui était très importante aussi, c'était cette question d'évolutivité des bâtiments. Quand on regarde cette halle universelle de près, on voit que d'une part, il y a une évolutivité programmatique qui est envisagée, mais aussi spatiale. C'est en fait une hélice qui se développe en trois temps avec des programmations différentes et qui peut justement dans le temps d'aller plus loin et être construit. Au début, c'est construction en béton et par la suite, c'est une construction en bois. Et ces bâtiments ont généré aussi des espaces un petit peu de nature différente. D'une part, nous avons généré des espaces à l'intérieur de bâtis. Mais d'autre part, c'était vraiment cet traversement de ce bâtiment par le tracé interquartier qui était important. Et là, c'est juste un exemple que justement sur cette question d'évolutivité de cette halle universelle. Et quand on parle d'évolutivité, c'était une question bien sûr qui a été aussi déclinée pour différents sujets, dont l'habitat, que nous avons imaginé justement des quartiers qui sont envisagés dès le départ avec une évolutivité possible dans le temps, avec une pièce en plus, et avec des typologies différentes, typologies collectives, aussi bien qu'intermédiaires. Et là, on voit justement la configuration, l'évolution possible dans le temps de ce quartier. Et je pense que...
Oui, alors sur Bordeaux, effectivement, toujours dans le cadre d'un appel à projet dans le cadre de la SPL, on a proposé aussi, on a été retenu sur le concept de pièce nomade, cette fameuse pièce en plus, dans un projet qui est situé aux allées de Bouteau, donc c'est le long du tram entre Ravzy et le lac. Ce projet, donc, comme on le voit à l'image, c'est en fait dans un espace entre les logements privatifs sur les zones de terrasse, là, de créer cette pièce en plus, qui est donc une pièce indépendante, qui, avec l'évolution des habitants, pourra être vendue et rattachée à terme à l'un ou l'autre des logements. Ça permet d'avoir un espace qui peut servir d'atelier, qui peut être aménagé ultérieurement pour une chambre d'appoint. Voilà, ça a divers usages. Et c'est vrai que nous allons réaliser ce concept sur les allées de Bouteau à Bordeaux.
Oui, et par la suite, très rapidement, du coup, où ?
On n'est pas tout seul, on est avec DND, Drossard, architecte. Ouais.
D'accord. Et puis, très rapidement, les évolutions de cet habitat évolutif, que l'idée a fait du chemin. Par la suite, il a pris des formes un petit peu différentes, comme on a essayé vraiment de tester des différentes solutions et différentes innovations. Ici, il s'agit en fait de constructions en bois qui ressemblent beaucoup en fait aux containers, mais imaginez en bois qui sont superposés. Et après, sur l'ensemble, on a tiré une toile translucide en photovoltaïque. Apparemment, c'est possible. Et puis, par la suite, on a protégé les façades par des toiles végétalisées. Pourquoi nous avons fait cette configuration-là ? D'une part, bien sûr, il y a eu toute une série de contraintes à l'intérieur et pour le fonctionnement en soi du bâti, mais l'idée, c'était aussi quand même de générer des espaces un peu différents entre les bâtis. L'idée, c'était justement qu'on ne pense pas seulement les espaces publics près de centralité, le sujet que nous avons traité avant, mais il faut amener cette question, ou il faut traiter ces questions près de l'habitant et dans le quartier d'habitation. Et ici, en fait, avec cette toile tirée, on crée près de bâtiments un petit espace protégé, à l'image un petit peu des arcades de Place de Vosges à Paris, par exemple, ou Berne, le centre-ville de Berne, mais dans une réinterprétation complètement différente. on se retrouve du coup sous le façade, on est protégé et c'est comme une toile qui se détache en fait du bâtiment, qui d'une part protège les façades des containers en bois, mais d'autre part crée justement cet espace tampon qui est très très important pour générer des espaces partagés. Et par la suite, on a regardé aussi quel est cet espace qui est généré à l'intérieur. C'était une possibilité de créer des espaces partagés tempérés. Cela veut dire que pas des espaces complètement fermés comme on peut retrouver, par exemple, dans les centres commerciaux, etc., non plus complètement à l'extérieur, mais justement cette possibilité de vivre quand même avec les saisons, mais de rester protégé quelque part. Et par la suite, nous avons imaginé justement quelles pratiques qu'on pourrait imaginer dans ces espaces. Que est-ce qu'il y a des potagers partagés, par exemple, pour générer justement cette collaboration entre les habitants, etc. Du coup, c'était des réflexions qui sont en cours aussi. Et ici, on voit tout simplement un peu, pour mieux comprendre le principe, quel était le fonctionnement de ce bâtiment, comment nous avons créé ces espaces tampons. Et par la suite, juste pour finir, l'idée que comme nous parlons des espaces publics et nous n'avons pas parlé des espaces verts, c'était un sujet qui a été traité en profondeur en réalité par d'autres ateliers qu'Écomobilité. Et ici, c'est juste pour rappeler un petit peu que les réflexions ont beaucoup porté comment dépasser l'idée des espaces verts utilitaires. Cela veut dire que comment faire pour que ces espaces verts ne soient pas tout simplement esthétiques, qu'on peut, la question qui peut se poser par rapport à certains espaces verts aujourd'hui. Et du coup, au début, bien sûr, on est passé par les phases d'imaginer des potagers, que pour le partage, c'est sympa, pas tellement productif, mais on peut arriver, on peut trouver son compte quand même, et c'est très pédagogique. Mais par contre, par la suite, et ici, hélas, je n'ai pas le temps de développer le sujet, mais nous avons imaginé aussi des fermes. Nous avons aussi imaginé des fermes urbaines. Après, pourquoi il y a un certain nombre de contraintes qui se posent, certes, et dans le contexte urbain, il faudrait plutôt imaginer des éléments hors sol, ou c'est-à-dire il y a toute une tendance de dire ça, mais c'était après aussi pour intriguer justement que comment on pourrait réintroduire des fermes urbaines à l'ancienne dans le contexte urbain. Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce que ces espaces peuvent vivre autrement? Est-ce qu'il y a des pratiques qu'on peut inventer? C'était plus des questions posées que des solutions. Et peut-être, je ne sais pas, pour finir. Et du coup, comme il ne reste que 10 minutes, peut-être vous avez des questions sur la démarche. C'est vrai que c'est un projet qui touche un petit peu à tout. Et c'était l'idée en soi que ça touche un peu à tout. Mais du coup, peut-être vous avez des questions sur le sujet. Ouais, mais je peux juste rappeler, du coup, peut-être que les points de départ de ce projet, juste dans la philosophie, c'était justement dépasser quelque part. Comme ici, j'ai dit aussi que c'est difficile d'extraire juste un sujet comme espace public, mais c'était aussi le départ pour le projet, c'était le constat qu'on ne peut pas penser à une échelle de bâtiment ni à une échelle d'un petit quartier pour aller plus loin. Que c'est cette idée qu'il faudrait penser vraiment en échelle de la ville pour pouvoir se reposer un certain nombre de questions, pour pouvoir restructurer la base même de la ville. Et c'est cette volonté-là qui nous a mené à faire ce projet.
Merci Maya. Juste une précision pour vous dire que les petits films que nous n'avons pas pu vous diffuser tournent en boucle sur un écran un petit peu plus loin dans l'îlot central. Voilà.
Merci.
Merci de votre attention. C'était courageux, surtout à l'heure du déjeuner.